Avoir château dans le Lot. Une visite et découverte des châteaux lotois présentés par Martine Dufour et Marie-Madeleine Rey.
Bonjour chers amis auditeurs. Alors nous écoutons tout de suite cette petite musique. Tout ça pour vous dire que nous sommes toujours dans cette partie du château où il y a les toilettes et où se trouve ce trône exceptionnel. Alors bonjour Marie-Madeleine.
Bonjour Martine, bonjour à tous.
Et bonjour Françoise.
Bonjour Marie-Madeleine, bonjour Martine.
Voilà, merci de nous accueillir avec toujours ce sourire et cette bonne humeur au château de Lantis. Alors nous sommes, comme je le disais en début d'émission, nous sommes toujours dans cette pièce. Alors ce n'est pas une pièce, c'est devenu une pièce, mais qui fait partie, vous allez expliquer tout à l'heure, cette autre partie du château. Mais alors, nous sommes toujours devant ce trône et il y a au-dessus une inscription, Françoise, alors sur une plaque, mais je ne définis pas la plaque.
Alors c'est une petite plaque en porcelaine qui est clouée, vissée dans le dossier de ce trône et avec un poème ou une inscription ancienne. Alors c'est écrit « Pour le roi », évidemment, R-O-Y. « Si tu dois, pour le besoin de ta cause, t'asseoir sur le trône », ensuite c'est effacé. Je vous laisse deviner la suite. « L'eau de France sera pour toi souveraine lorsque tu auras déposé dans ce trône ta générosité de maintenant. » Alors, l'orthographe est complètement différente de la nôtre, n'est-ce pas ? Pense à laisser ton royaume aussi propre que ton prédécesseur l'y a laissé. Si cela n'en était pas le cas, sache redresser ton royaume, car ta dignité de roi t'en impose. Et c'est signé ton confident.
Alors ton confident, c'était apostrophe O-N. C'est assez, voilà, c'est une écriture assez particulière. Merci Françoise. Et effectivement, dans le bas de la cuvette des toilettes, il y a bien marqué « Eau de France » en écriture ancienne, hein, puisqu'apparemment
oui,
ça existait.
O-E-A-U.
Oui,
E-A-U. Voilà. Ça n'est pas la région.
Oui, voilà,
O-E-A-U. Donc ça a été écrit à une certaine époque, on ne sait pas par qui. Il y a beaucoup de mystères autour de ce cabinet d'aisance à l'anglaise.
Voilà. Et donc, nous sommes dans cette pièce où il y a, on aperçoit visuellement deux meurtrières, ou ce qui peut être considéré comme meurtrière.
Oui, des bouches à feu qui ont la particularité d'être plus grandes et plus ovales que les bouches à feu qui étaient dans la précédente tour. Nous nous trouvons dans une petite tour. Il y a deux petites tours excentrées de chaque côté du château et les experts en art militaire nous ont expliqué que c'était un château à tir croisé. Donc chaque tour, chaque niveau de tour à un angle de tir différent. Et si on plaçait des militaires sur chaque canonnière au même instant, on arrivait à neutraliser tous les ennemis autour. C'était très bien pensé.
D'accord. Et donc, vous nous disiez qu'au niveau des bouches à feu, juste avant l'émission, il n'y en a pas que deux dans cette partie du château, dans ce excentré.
Oui, effectivement, il y a dans chaque tour quatre côtés, puisque la tour est excentrée, d'où le quatrième côté, et quatre meurtrières, quatre bouches à feu dans chaque tour.
D'accord.
Puisque c'était prévu certainement pour quatre militaires. Donc une armée quand même importante.
Ah oui,
puisqu'il y a deux étages, voire trois étages dans une des tours. Et si vous placez quatre militaires dans deux tours, ça vous fait un corps d'armée déjà important.
D'accord. Donc, Marie-Madeleine, vous avez quelque chose à rajouter, bien sûr.
Le plafond, si on peut dire, est en forme, est une voûte en berceau renversé. Voilà, comme ce que l'on a trouvé dans la cuisine, dans la première tour. hein, dans la cuisine moderne actuelle.
Voilà,
voilà, le plafond est de la même façon en berceau renversé.
C'est ce qu'on appelle les voûtes en casemate.
Non, casemate.
Oui,
c'est ça.
Du nom des casemates d'Orient et du Maghreb, puisque après les croisades, on a les chevaliers qui revenaient avaient bien compris que ces casemates, ces voûtes en casemate, permettaient d'éviter les incendies. Puisque les voûtes sont très hautes et notamment construites avec des pierres qui font 1 mètre à 1,20 mètre de hauteur. Et donc, en cas d'incendie, le feu s'arrête. Et en plus, on a une très bonne acoustique. Ce qui permettait sans doute les transmissions des ordres.
Ah oui, effectivement, il faut penser également à ça. Alors, donc, nous allons ressortir de cette tour, en fait, et de ce cabinet d'aisance, donc des toilettes, pour nous rendre, donc nous repassons dans la grande salle qui se trouve à gauche de l'entrée. Et tout de suite, sur ce mur à notre droite, en allant vers la porte, la petite porte d'entrée, Françoise, vous avez mis un certain nombre de photos qui expliquent un petit peu l'évolution du château.
Voilà, nous avons réussi, parce que c'est un exploit, nous avons brûlé en 2004. Tout ce que nous avions a brûlé, dont nos photos. Et heureusement, nous avions des amis, des scouts, des bénévoles qui étaient venus nous aider, qui avaient pris des photos. Donc ces photos ne sont pas de notre composition, ce sont des photos, des doubles que des bénévoles nous ont données, puisque nous avions tout perdu.
Et oui, effectivement.
Alors on voit dans les premiers panneaux le château.
Tel que vous l'avez trouvé, tel que
non,
vous l'avez
déjà
non,
là dégagé. La partie haute de la tour était la seule qui était possible de voir,
voilà,
puisqu'elle était cadastrée comme pigeonnier.
Voilà.
Là, on voit encore les chaînes à l'intérieur. On voit que la tour avait été
arasée.
On voit les échelles qui nous permettent d'un étage à l'autre de descendre au fur et à mesure du dégagement des gravats. Et ça n'est pas fini, puisqu'il y a 2 étages encore à dégager.
C'est ce que vous disiez.
Donc ça, c'est la renaissance de la toiture au fur et à mesure. Là, vous voyez l'apprenti maçon.
Oui, donc en la personne de Françoise.
Voilà, qui est en train de rebâtir la rase des murs, puisque les murs étaient légèrement évasés. Il a fallu démonter le haut des murs, rebâtir en plaçant dans l'épaisseur des murs des sablières, c'est-à-dire des poutres de 10 mètres de long, de 52 sections, et qui permettent au mur une rectitude, et ces poutres, ces sablières ont permis de boulonner la charpente pour être sûr de ne pas avoir de mouvement dans la toiture si on avait une tempête importante comme en 99. Alors, on continue avec les étapes de la construction de la toiture.
Oui, donc, il date de juin, juillet, août 2001.
Alors, ça, c'est la première toiture, celle qui a brûlé.
D'accord.
Celle qui a été reconstruite à partir de 2006, c'est la même.
D'accord.
Alors, on voit donc les poutres qui arrivent toutes des Pyrénées, des poutres en chêne, puisque dans notre région, dans le Lot, nous avons de nombreuses forêts, mais des petits chênes qui sont plutôt des chênes lièges et qui ne permettent pas une section ni une rectitude suffisante. Et pour couvrir la charpente, nous avons fait venir 40 000 tuiles du Jura.
Oula, c'est énorme.
Voilà, c'est énorme. Et cela, c'était le premier prix de France que nous avons reçu.
Voilà.
Donc, et évidemment, le financement personnel de notre maison. Et pour la deuxième toiture, celle qui a été rebâtie après l'incendie, après 2006, évidemment, ça a été essentiellement le crowdfunding et les donations.
En tous les cas, au hasard de l'évolution des photos, nous apercevons de l'extraordinaire travail et fabuleuse aventure que vous avez commencé donc en 1993, mais ensuite à partir de 2001, après le feu qui a pris dans le château. Et lorsque nous voyons cette grande salle des gardes ou de gardes, on n'imagine pas du tout ce que c'était et le travail que ça a demandé pour refaire quasiment à l'identique.
Voilà, c'est ça. Nous sommes quand même très très bien guidés par l'architecte des bâtiments de France depuis le début des travaux, par le conservateur de Toulouse aussi, et qui sont de très très bons conseils et qui permettent de caler au plus près de l'histoire la restauration du bâtiment.
D'accord. Et donc nous allons évidemment sortir de cette pièce pour repasser par la petite porte et peut-être monter ce bel escalier que nous apercevons quand nous entrons. Donc Françoise, nous montons ce bel escalier, très large, très, très spacieux, et en regardant de chaque côté, nous apercevons qu'il n'y a pas de rampe, qu'il n'y a pas de corde. Alors Françoise, y aurait-il une explication ?
Alors l'explication tient à ce qui nous arrive depuis 2 ans, c'est-à-dire le Covid. Évidemment, installer une corde ou une rampe, qu'elle soit en bois ou en fer, ce serait un moyen de contamination. Donc pour
D'accord.
l'instant, on s'en tient au statu quo. D'autant plus que si on repart dans l'ancien temps, évidemment, dans un château militaire, il n'y avait pas de rampe.
Ah ben oui.
C'était que des hommes valides. Et vous remarquez cet escalier monumental conçu pour des hommes, avec des marches larges et hautes, puisque évidemment tous ces hommes en armure devaient monter avec leurs armes et il leur fallait de la place. Mmh, on n'est pas dans un château féminin, les dames n'ont pas de large robe, c'était uniquement une raison militaire.
Et d'autant plus que les armes, et tout au moins leur costume, je ne sais pas comment on peut dire,
leurs
armures étaient quand même très lourdes à l'époque. Et donc en montant cet escalier... Voilà, nous sommes en haut et nous apercevons alors plusieurs petites choses qui sont superbes. Alors déjà, à ma droite, quelque chose qui m'interpelle, Marie-Madeleine, une copie de tapisserie. Alors vous pourriez nous la décrire.
C'est une copie des fameuses tapisseries de la Dame à la licorne qui se trouve au musée de Cluny à Paris et donc qui rappelle les 5 sens. Et ici, nous sommes devant le sens de l'ouïe, puisque c'est un instrument de musique. Et Martine, là, vous êtes bien placée pour savoir ce que c'est. Je pense que c'est un psaltérion.
Absolument.
C'est ça. Hein, voilà. Et donc, il y a 2 dames qui jouent de ce psaltérion. Et elles sont habillées, évidemment, à la mode médiévale, hein, du 13e, 14e siècle. Et le fond est rouge. Le fond est rouge. Il y a... des petites guirlandes, qu'on peut appeler des petites guirlandes, des jetées de fleurs plus exactement, semées de petits animaux. Il y a un lapin blanc au-dessus d'une dame. Ensuite, il y a peut-être un petit renard. Voilà. Et ces dames sont vêtues de longues robes qui s'étalent sur une prairie de fleurs. Voilà.
Bleu d'ailleurs.
Bleu, oui, dans les bleus. Voilà, c'est très joli, mais c'est une copie.
Alors, à gauche de cette tapisserie, ou copie de tapisserie, alors, il y a une petite fenêtre, j'appelle fenêtre, mais peut-être que ce n'est pas le bon mot, Françoise.
Fenêtre, oui.
Ouverture.
Ouverture pour voir les ennemis arriver. Hein. D'ailleurs, vous avez à l'extérieur les fers qui sont restés des temps anciens.
Et oui, et ceux-ci sont bien marqués par rapport à ceux que nous avions vus dans la cuisine des soldats. Ce fer est bien marqué par les pics de chaque côté.
Voilà, on voit bien les pics là, qui sont restés très offensifs. Et on imagine l'assaillant qui essayait de s'agripper et qui, évidemment, ne pouvait pas...
s'agripper sans se blesser cruellement.
Alors, en dessous de cette ouverture, il y a est-ce qu'on peut appeler ça une niche?
Oui, une niche, ah, oui, Madeleine, oui, hein. Oui, qui est arrondie, hein, autant creusée dans le mur, hein, voilà, aménagée dans le mur. Et au-dessus, il y a une sorte de dôme, de demi-dôme, hein, qui, voilà, et puis il y a une petite statue de paysanne.
Alors Françoise, peut-être avez-vous des précisions sur tout ce que vient de dire Marie-Madeleine, et notamment cette belle statue.
Alors cette statue, c'est la tante Zoé. C'est la tante Zoé, c'est la sœur de mon grand-père,
ah,
qui habitait Paris, qui n'a pas eu d'enfant et qui s'est occupée de tous les enfants orphelins entre les deux guerres et à la guerre, après la guerre 40. Et donc, elle était musicienne, et elle avait organisé une chorale avec tous ses enfants orphelins dont qu'elle dotait généreusement. Et elle avait un minibus sans doute, ou un car, je ne sais pas. Et elle transportait les enfants de ville en ville, un peu comme les petits chanteurs à la Croix de Bois, pour les faire chanter.
D'accord.
Devant des officiels, dans des villes. Et elle avait plusieurs appartements à Paris et elle était mécène. Donc elle laissait des appartements à des artistes qui étaient logés gratuitement, mais qui étaient supposés lui offrir chaque année une œuvre.
D'accord.
Et là, donc, c'est la tante Zoé, donc ce sont ses traits. Elle est déguisée en paysanne, puisque sa grande passion, c'était les costumes. Donc, les enfants qui chantaient, tous ces orphelins, étaient costumés à l'ancienne, avec les costumes régionaux. Et elle avait une foule de costumes qui sont maintenant au MUCEM à Marseille.
Ah oui. Alors, le MUCEM, c'est-à-dire, pour nos auditeurs,
C'est un musée à Marseille, un musée très grand.
Oui,
très
le musée
grand.
Du monde méditerranéen.
D'accord.
Voilà, et le fond de costume de la tante Zoé se trouve au MUCEM, puisqu'elle n'a pas eu d'enfant et que, sans doute, mon grand-père n'avait pas besoin d'avoir des centaines de costumes d'enfants.
Elle a un très joli visage. Elle est très jolie.
Donc elle est, je pense, habillée en berrichonne, là. Mm-hmm. C'est une statue en pierre, puisque à son décès, mon grand-père a eu de nombreux objets qui venaient chez elle. Et c'était une dame très charitable.
Oui, d'accord. Alors, nous continuons notre tour d'horizon. Et en levant la tête, ou en levant les yeux et la tête, sur le côté gauche du mur par lequel nous avons monté l'escalier, se trouvent alors des trous relativement carrés. Je dis relativement parce qu'effectivement, ils en ont à peu près la forme. Alors pourquoi ces trous?
Alors ces trous correspondaient à une poutraison ancienne. C'est-à-dire que lorsqu'on montait l'escalier, on avait au premier étage une loggia à l'italienne. Cette loggia à l'italienne permettait de loger les musiciens lorsqu'on donnait un bal. D'accord. Parce que les militaires ne se battaient pas toujours, il y avait des périodes de paix. Et là, ça permettait d'héberger les musiciens ou les artistes qui, souvenez-vous, étaient excommuniés par le pape, persona non grata, et qui devaient donc être entendus, mais en aucun cas vus. Mmh. Et c'est à partir de Louis XIII, Louis XIV, où on a commencé à rendre visibles ces artistes.
Alors, nous continuons notre visite. Alors, nous allons passer devant... Alors, ce n'est pas une porte, Françoise. Je dirais presque que ce sont les anciennes latrines.
Voilà, exactement. Ce sont les anciennes latrines qui sont visibles de l'extérieur, puisque ça forme un peu comme une bretèche. Mmh. Alors, les latrines militaires. Aha. Puisqu'on a sur le mur extérieur une fente, qui est une archère. Donc, on pouvait tirer par cette ouverture, mais on pouvait tirer aussi par le siège.
Oh là là.
Qui permettait de jeter des pierres, mais vous savez qu'on ne jetait pas d'huile, évidemment, l'huile étant très très chère, mais dans le Lot, vous avez une infinité de petits ruisseaux sableux, avec un sable de gravier, et nous avons appris par un corps de gendarmerie qui était venu visiter que, justement, dans le Quercy, les militaires avaient un endroit dédié à l'entrepôt du sable. On faisait chauffer le sable en cas d'attaque et on diluait le sable par l'ouverture du siège qui rentrait dans les cottes de mailles et dans les armures, sable chaud, et qui pouvait mettre les assaillants en dessous, en déroute, sachant qu'en dessous, on est déjà dans des fossés. Ces fossés qui étaient remplis de ronces, c'était des fossés secs, mais qui n'étaient pas bien tondus. On avait des ronces où on avait même des troupes aux doigts qui permettaient d'empêcher les intrus.
Tout était bien calculé.
Ah oui, comme au Capitole.
Comme au Capitole, oui.
Tout était bien calculé pour l'assaillant. Hein.
C'est, voilà.
Et l'ouverture est ronde, bien entendu, qui va vers le bas.
L'ouverture du siège est ronde. Et on voit qu'il y a encore les charnières. Donc, on avait une porte. C'était quand même assez intime, peut-on dire. Mais toujours cette double vertu confort, parce que tous les châteaux n'étaient pas dotés de latrines, et toujours l'inspiration militaire, la double fonction.
Alors, en face de cette ouverture avec les latrines, il y a également un deuxième escalier qui nous amène à, on va dire, à un deuxième étage.
Au premier étage.
C'est premier étage. Vous voyez, on peut se tromper.
Oui, c'est un escalier à double volet.
Voilà. Alors, en montant cet escalier, Marie-Madeleine, nous apercevons une autre tapisserie, plutôt dans les tons de vert cette fois-ci, alors que vous allez nous décrire.
Alors, c'est un paysage. Alors, au premier plan, nous avons une sorte de sous-bois avec un ruisseau peuplé de grands oiseaux. Il y en a deux, et des fleurs et un feuillage très foisonnant, et des arbres donc dans lesquels, ben oui, j'aperçois deux autres petits oiseaux, plus petits disons, voilà, qui sont perchés sur les branches, et il y a donc entre ces arbres une ouverture où nous continuons à suivre le ruisseau qui nous mène à une construction, une architecture avec une balustrade, une sorte de petit temple ou de reste de temple à colonne. Voilà, mais on ne voit pas de personnages. Il n'y a que des animaux, enfin des oiseaux et des fleurs et des arbres.
Voilà. Vous avez peut-être donné la date à peu près de cette copie.
Non, alors c'est une copie, évidemment, toujours. Mais c'est plutôt là dont nous sommes plutôt au XVIIe, XVIIIe siècle.
D'accord, nous avons laissé le XVe. Donc, nous continuons à monter cet escalier, toujours aussi large, avec des marches très hautes. Effectivement, ce ne sont pas des escaliers pour des dames, je m'en aperçois en les montant. Et nous arrivons donc à ce premier étage, donc. Et tout de suite, j'ai une vue sur deux fenêtres qui sont très belles et qui donnent, dont la vue donne sur ce magnifique paysage que nous avons en face du château quand nous arrivons. Alors, ces deux fenêtres, Françoise, je vois qu'il y a sur une Françoise Barbier d'Amiette et sur sur le deuxième, un M Train ou Trine. Alors, quelle en est l'explication?
Alors, l'explication vient évidemment de l'incendie, où toutes les fenêtres ont brûlé. Et après cet incendie, je continuais à ouvrir le château à la visite, dans les ruines. Et une famille vietnamienne est arrivée, Anne Trinh et sa famille, et qui nous a dit, mais là, des vitraux seraient beaucoup plus indiqués avec la luminosité sur la face sud que des vitres simples. Alors, j'ai répondu à ce monsieur que, évidemment, il n'y aurait jamais de vitraux puisque c'était hors de prix. Et ce monsieur, très gentiment, m'a dit, mais voilà, j'habite Paris, mais j'ai une maison dans le Lot, et c'est avec plaisir que je vous apprendrai l'art du vitrail.
Magnifique, Françoise donne dans tous les domaines
un miracle de plus.
Voilà, donc je suis allée dans cette famille pendant 2 ans mm-hmm. pour apprendre l'art de tailler ces verres soufflés à la bouche, d'apprendre les soudures au plomb et à l'étain, puisque tout est fait vraiment artisanalement et à l'ancienne, et ce qui a permis de doter le château de vitraux à certaines fenêtres. Alors là, c'est une fenêtre à meneaux avec 2 panneaux différents. Le panneau de gauche représente le blason. Alors nous avons retrouvé, pour information, les blasons à la Bibliothèque nationale à Paris. Alors, le panneau de gauche représente le blason des seigneurs du Moyen-Âge, les Durfort de Boissière, mm-hmm. qui portent d'azur, donc le fond est bleu, ont 3 chefs étoilés d'or, c'est-à-dire que leurs ancêtres ont participé à 3 croisades. En bas, à gauche, vous voyez un chien de chasse, une levrette, donc droit de chasse à cour. En haut, à droite, un corbeau, en fait c'est une corneille, c'est le droit de fauconnerie. Et le blason est coupé en travers, on appelle ça une brisure d'or aussi. Et c'est parce que ce seigneur n'avait plus de fils ou ses fils étaient décédés et il va prendre un de ses bâtards.
D'accord.
Il faut savoir que les femmes, à l'époque, avaient 10, 12, 15 enfants. Une mortalité infantile et féminine effroyable. Et s'il restait 3 ou 4 enfants, c'était bien le maximum. Et évidemment, si c'était des filles, elles ne pouvaient pas devenir chefs de guerre. Il fallait donc un garçon. Donc, on le prenait dans le vivier des bâtards.
D'accord.
Bâtardise qui n'était pas du tout péjorative.
Alors, Françoise, nous allons terminer l'émission par ce premier vitrail. Nous allons continuer de découvrir ce beau château. Merci Françoise.
Merci Martine. Merci Marie-Madeleine.
Merci Marie-Madeleine.
Merci à tous de nous avoir écoutés.
Et donc
merci
à la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir.
C'était À voir château dans le Lot. Une visite et découverte des châteaux lotois présentés par Martine Dufour et Marie-Madeleine Rey.